Parce que ça y est, on l'a finalement, ce remaniement, et nous allons essayer de comprendre ses choix, les signaux que cela envoie pour les dernières années du quinquennat. Bonjour Jérôme Jaffré.
Bonjour.
Politologue, chercheur associé au CEVIPOF. D'abord, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps ?
Écoutez, on se perd en conjecture, car il faut bien le dire, vu le gouvernement tel qu'il nous a été annoncé dans ce complément que nous attendions depuis un mois, il n'y avait pas franchement matière à 4 semaines de tergiversation. Alors, on peut faire l'hypothèse, parce qu'il faut toujours essayer de chercher la raison possible, c'est surtout, je dirais, le problème posé par Amélie Oudéa-Castéra qui a retardé les choses, savoir si finalement elle arrivait à apaiser sa situation à l'éducation nationale après un démarrage assez catastrophique, et si du coup on pouvait la maintenir à ce poste, qui était manifestement le souhait d'Emmanuel Macron, ou si manifestement, en sens inverse, la rupture avec le monde enseignant était si forte qu'il était impossible de la conserver. C'est finalement cette deuxième interprétation qui a prévalu, et du coup, 4 semaines se sont écoulées entre la nomination des principaux ministres, les ministres, et le reste du gouvernement. Ça porte un tort à l'ensemble, hein, ne nous cachons pas. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, l'intérêt a décru et la connaissance des compléments de ce gouvernement, beaucoup de Français n'y feront pas grande attention.
Oui, c'est sûr qu'on va parler effectivement du casting. Alors, on a lu ici et là également, Jérôme Jaffré, que Emmanuel Macron voulait mettre un peu les nerfs de tout le monde à rude épreuve, ce qui risque effectivement de laisser quelques traces, non ?
Écoutez, là, nous sommes à nouveau dans les interprétations, mais enfin, parmi ceux qui finalement sont au gouvernement, je suppose que les traces disparaîtront très vite. Et en revanche, il y a effectivement ceux qui finalement ne sont pas repris au gouvernement et qui en garderont probablement un peu de rancune.
Alors on va en venir au casting, Jérôme Jaffré, avec donc Nicole Belloubet qui arrive en pleine tempête. Alors c'est un petit peu la surprise du chef, parce qu'on sait qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout, sur la ligne. Alors je ne parle pas d'Amélie Oudéa-Castéra, mais qu'avait mise en place Gabriel Attal lorsqu'il est arrivé à la tête de l'éducation nationale. Hein.
C'est une des grandes questions que pose ce remaniement. Alors, soyons lucides, Nicole Belloubet n'est pas une personnalité très connue des Français. Elle a été garde des Sceaux, ministre de la Justice entre 2017 et 2020, mais ce n'est pas une personnalité politique que le pays connaît. En revanche, à la fois le monde politique, le monde médiatique et les enseignants, et en particulier les syndicats d'enseignants, s'interrogent effectivement sur la politique que voudra mener Nicole Belloubet. Sera-t-elle la politique de Nicole Belloubet, ou Nicole Belloubet devra-t-elle appliquer la politique voulue par Emmanuel Macron et Gabriel Attal ? Alors, on dit beaucoup que c'est Emmanuel Macron qui a voulu Nicole Belloubet, que ce n'était pas le choix prioritaire de Gabriel Attal, mais on voit bien qu'il y a ce point d'incertitude, avec l'extraordinaire difficulté de toute façon de mettre en place les fameux groupes de niveau que Gabriel Attal avait annoncé comme son projet quand il était au ministère de l'Éducation, et qui suscite une très forte inquiétude, une très forte hostilité, même on peut le dire, dans les syndicats d'enseignants, à la fois parce qu'ils craignent une disparité accrue parmi les élèves, et également une insuffisance de moyens pour les enseignants pour gérer ces fameux groupes.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui lorgnait sur ce ministère de l'Éducation nationale, Jérôme Jaffré, c'est évidemment François Bayrou, qui finalement a pris un chemin totalement différent. Il a tiré à boulet rouge sur le projet présidentiel, donc c'est sans lui.
Évidemment, c'est sans lui. Et François Bayrou, calme et paisible, aurait simplement pu dire « les conditions ne sont pas réunies, je ne rentre pas au gouvernement ». Mais un Bayrou calme et paisible n'existe pas, il faut bien le dire. C'est un François Bayrou absolument déchaîné, car il a taillé en pièces quand même la politique du pouvoir, bien au-delà donc de son refus de rentrer au gouvernement, puisqu'il a même dit qu'on lui avait proposé le ministère des Armées, et il a ajouté cette phrase, je dois dire assez stupéfiante, que ça ne l'intéressait pas parce que c'est un secteur qui se porte très bien, estime-t-il, donc on n'a pas besoin de lui, pense-t-il. En revanche, pour le reste, il a déclaré à la fois que l'éducation, il n'adhérait absolument pas au projet qui était en place, et il avait passé 2 heures avec Gabriel Attal pour en discuter. On voit l'ampleur des choses. choses. Et il a également pointé une opposition totale entre les gouvernants de Paris et les gouvernés du reste du pays, qui là est une attaque en règle d'une rare puissance qui attaque frontalement le pouvoir macroniste tel qu'il existe depuis 2017 et pourtant théoriquement François Bayrou le soutient. Et il est évident que c'est une phrase qui sera exploitée énormément par les oppositions.
Et alors, vous diriez, vous, Jérôme Jaffré, qu'il est mieux d'avoir un François Bayrou ingérable dans un gouvernement ou à l'extérieur ? Même s'il ne va pas quitter la majorité, il le dit pour l'instant, en tout cas.
De toute façon, la question ne se pose plus, et vous avez raison, car c'est François Bayrou qui serait rentré au gouvernement pour en claquer la porte au bout de 3 mois en disant « rien ne marche et rien ne va », c'eût été encore pire. Donc, si en prenant les choses comme ça, finalement, on peut considérer que c'est assez raisonnable. Mais il est clair que l'offensive de François Bayrou signifie une accélération vers la campagne présidentielle de 2027, un début de positionnement. On l'a vu également avec une candidature mi-déclarée de Xavier Bertrand pour les Républicains cette semaine. Donc on a une accélération vers la présidentielle de 2027 qui fait que nous changeons un peu de période.
On part un peu trop tôt là quand même, non ?
On part très tôt parce que le vrai raisonnement, vous avez raison, on part vraiment très tôt dans la mesure où ce quinquennat, un quinquennat ça dure 5 ans théoriquement, et ce quinquennat pour le moment n'a encore que même pas 2 ans derrière lui. C'est donc très très étonnant comme situation, d'autant plus si vous voulez que l'événement à venir c'est les Jeux Olympiques en France qui vont avoir lieu cet été. Oui. Est-ce qu'il se passe bien ? Est-ce que Gabriel Attal s'installe bien dans la fonction de Premier ministre et garde l'écoute et l'intérêt des Français que les Français manifestent à son égard alors qu'ils sont tellement éloignés par ailleurs d'une grande part de la classe politique? Et enfin, la grande question, c'est aussi l'attitude du Parlement, sa relation avec le pouvoir, l'hypothèse même d'une motion de censure qui fait qu'à ce moment-là, si elle était votée, la question de 2027 ne serait pas la question immédiate, ce serait la question de savoir s'il y a des élections législatives ou pas.
Donc on a encore quelques échéances et quelques rendez-vous à prendre ensemble, Jérôme Jaffré, pour pouvoir en reparler. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin, vous qui êtes politologue, je le rappelle, et chercheur associé au CEVIPOF. Merci, bon samedi, bon week-end.
Merci à vous.